à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Mandakis à la présentation de cette édition du mardi 8 février 2022. Voici d'abord le sommaire. Procès Sankara au Burkina, 30 ans de prison requis par le parquet militaire contre l'ex-président Blaise Compaoré. Bamako expulse de son territoire l'envoyé spécial du journal Jeune Afrique. Alerte du PAM, 13 millions de personnes sont menacées de famine dans la Corne de l'Afrique. Cette région connaît sa pire sécheresse depuis des décennies. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en tournée dans le Pacifique pour contrer la Chine. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. Procès de l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso, le parquet militaire a requis 30 ans de prison ferme contre Blaise Compaoré. L'ancien président en exil en Côte d'Ivoire est accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur, tué lors d'un coup d'État en 1987. Abdrahamane Dia.
Lors de son réquisitoire ce mardi, le parquet militaire a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité d'assassinat. 30 ans de prison ont également été requis contre Hyacinthe Kafondo, l'ancien commandant de la garde de M. Compaoré, autre grand absent de ce procès car en fuite depuis 2016. Il est soupçonné d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara et ses collaborateurs et le parquet a réclamé sa condamnation pour attentat à la sûreté de l'État et assassinat. Outre ces deux absents de marque, 12 autres accusés étaient présents pour ce procès fleuve qui a débuté en octobre. L'écrasante majorité avait plaidé non coupable. Par ailleurs, 20 ans de prison ont été requis contre le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Il purge déjà une peine de 20 ans pour une tentative de coup d'État en 2015. À la demande des avocats de la défense qui doivent désormais plaider, le procès a été suspendu jusqu'au 1er mars.
Benjamin Roger, un envoyé spécial de Jeune Afrique, a été interpellé puis expulsé du Mali quelques heures après son arrivée à Bamako. Pour ce média français, la mesure est injustifiée et contrevient à la liberté d'informer. Les détails avec Jacques Aristide.
Jeune Afrique a dit condamner l'expulsion de Benjamin Roger. D'après la direction du journal français, le reporter était muni d'un visa d'entrée en règle et n'a pas dissimulé sa profession ni le fait qu'il venait l'exercer en toute impartialité au Mali. Arrivé à Bamako dans la nuit de dimanche à lundi, Benjamin Roger a été interpellé à son hôtel lundi vers 11h avant d'être conduit dans les locaux de la brigade d'investigation judiciaire où il a été interrogé, puis dans ceux de la police de l'air et des frontières où son expulsion lui a été signifiée. Le Mali a récemment notifié aux correspondants de la presse internationale qu'un nouveau processus d'accréditation allait être mis en place. Elle est indispensable pour venir travailler pour le compte d'un média international au Mali. Aucun membre de la presse internationale n'a été expulsé ces dernières années du Mali après le retrait en 2018 de l'accréditation d'un journaliste de Radio France Internationale.
La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déploré la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature tunisien ordonné par le président Kais Saied, estimant que c'était un grand pas dans la mauvaise direction. Les États-Unis et l'Union européenne ont fait part hier de leurs préoccupations. Monsieur Saied critique une partie des juges qui l'accusent de corruption et accuse aussi le Conseil suprême de la magistrature d'être manipulé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda qui s'efforce de marginaliser depuis son coup de force de juillet. L'ONG internationale Legal Action Worldwide, qui affirme représenter des victimes du Tigré, a annoncé aujourd'hui avoir déposé plainte auprès d'un organe de l'Union africaine contre l'Éthiopie qu'elle accuse de violations massives des droits humains durant la guerre qui ravage le nord du pays. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé en novembre, malgré l'opposition d'Addis Abeba, une enquête sur les exactions qui ont accompagné le conflit qui oppose depuis novembre 2020 le gouvernement fédéral éthiopien aux rebelles de la région du Tigré. Les deux belligérants sont accusés de multiples atrocités, dont des massacres de civils. 13 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie souffrent gravement de la faim alors que la Corne de l'Afrique connaît la pire sécheresse depuis des décennies. Le point avec Rosine Munezero.
Trois années ont passé sans véritable saison de pluie et la région enregistre ses conditions les plus sèches depuis 1981, selon le Programme alimentaire mondial. L'eau et les pâturages se font rares et les prévisions de précipitations inférieures à la moyenne pour les mois à venir ne font qu'aggraver la misère, a déclaré Michael Danford, directeur régional du PAM en Afrique de l'Est. De l'aide alimentaire est distribuée le long d'une bande aride du Kenya, de l'Éthiopie et de la Somalie, où les taux de malnutrition sont élevés et où quelques 13 millions de personnes risquent de souffrir de la faim cette année. L'UNICEF affirme que près de 5,5 millions d'enfants sont menacés par la malnutrition aiguë, ce qui pourrait augmenter au cours des trois prochains mois. Selon l'OPAM, 327 millions de dollars seront nécessaires pour répondre aux besoins immédiats dans les six prochains mois.
Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aujourd'hui aux 9 victimes mortes au métro Charonne à Paris lors d'une manifestation pour la paix en Algérie le 8 février 1962, violemment réprimé par la police française. Monsieur Macron est le premier président à rendre hommage aux victimes de cette manifestation organisée à l'époque par les partis de gauche, dont le Parti communiste français.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent aujourd'hui à Vienne avec l'objectif affiché par l'ensemble des protagonistes de conclure un accord au plus vite. Nous avons adressé un message clair à l'Iran, c'est l'heure des décisions, pas de faire traîner le processus, a insisté le chancelier allemand Olaf Scholz. Nous espérons qu'ils saisiront cette chance. La veille, Washington, qui ne participe pas directement à ces pourparlers, n'avait pas caché son impatience. Malgré les progrès, les pourparlers sont parvenus à un stade où une conclusion devient urgente, a prévenu un porte-parole du département d'État américain. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken part ce mardi pour la région Asie-Pacifique. Washington espère consolider des partenariats locaux face à une Chine conquérante. Mohamedou Onfa.
Anthony Blinken doit passer trois jours à Melbourne pour une réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad, une alliance des États-Unis avec l'Australie, l'Inde et le Japon. Cette réunion sera consacrée au COVID-19 et au réchauffement climatique et va préparer l'ordre du jour pour une réunion des chefs d'État prévue vers le milieu de l'année. Le secrétaire d'État américain va rencontrer des hauts fonctionnaires australiens, dont le premier ministre Scott Morrison, avec qui il devrait tenter de renforcer l'alliance militaire trilatérale AUKUS, Australie, Royaume-Uni, États-Unis, annoncée en septembre, pour contrer la Chine. Après son départ d'Australie prévu samedi, M. Blinken doit aussi faire une escale à Fidji pour s'entretenir avec plusieurs dirigeants d'îles du Pacifique, dont beaucoup sont courtisés par la Chine. Le message principal est que nos partenariats tiennent leurs promesses, a déclaré Daniel Crittenbrink, secrétaire d'État adjoint chargé du Pacifique et de l'Asie orientale. Pour lui, le Quad est une composante importante en matière économique et sécuritaire de la politique étrangère américaine dans la région.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué s'attendre à la tenue prochaine d'un sommet avec les dirigeants russes, français et allemands sur la crise ukrainienne pour le processus de paix dans l'est de l'Ukraine. Monsieur Zelensky a tenu ses propos lors d'une conférence de presse avec son homologue français Emmanuel Macron après près de trois heures d'entretien dans un palais de Kiev. La justice belge a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 13 personnes dans le cadre d'une enquête d'un juge antiterroriste soupçonnant le développement à Anvers d'un groupe proche de la mouvance salafiste djihadiste. Ces arrestations au cours de 13 perquisitions dans l'agglomération d'Anvers visent à mieux cerner les activités de ce groupe, a expliqué le parquet fédéral. Aucune précision n'a été donnée sur les activités suspectes qui ont conduit à ce coup de filet. Un tribunal russe a annoncé mardi qu'il allait se pencher la semaine prochaine sur de nouvelles affaires visant l'opposant prisonnier Alexei Navalny, qui risque de se voir infliger plus de 10 ans de prison supplémentaire. Fin janvier dernier, M. Navalny a été placé sur la liste des terroristes et extrémistes. Il a déjà été condamné à une peine de 2 ans et demi de privation de liberté en février 2021 dans une affaire de fraude qu'il juge politique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Rosine Munezero.
La Côte d'Ivoire, leader mondial de la production de noix de cajou brute, s'est hissée en 2021 sur le podium des pays exportateurs. Signe de progrès dans la transformation de la noix de cajou, a annoncé mardi le conseil coton à Nakarde. En 2021, la Côte d'Ivoire a exporté plus de 30 000 tonnes, 2 fois plus qu'en 2020, selon les chiffres officiels. Le pays pointe désormais à la 3e place des exportateurs derrière le Vietnam et l'Inde, selon le directeur de la commercialisation, Mamadou Doumbia. Au Kenya, la construction d'une autoroute de Nairobi, dont les travaux ont débuté il y a environ 2 ans, amorce les phases de finalisation et sera ouverte à la circulation à titre d'essai au mois de mars, a annoncé le ministre des Transports, James Macharia. L'État kényan exécute ce projet pour faciliter le déplacement entre la mégapole économique Nairobi et le port de Mombasa. Selon les autorités kényanes, l'infrastructure va permettre de faire passer le temps moyen de trajet de 2 heures à environ 20 minutes.
Et sans tarder, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les champions d'Afrique sont reçus ce mardi au palais présidentiel par Macky Sall. Ils vont être décorés comme promis hier par le président sénégalais. Hier, en effet, une marée humaine s'est répandue dans les rues de Dakar pour fêter les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Des centaines de milliers de personnes se sont pressées aux abords de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où les nouveaux champions ont été accueillis par le président Macky Sall. Puis un flot dense a accompagné à travers Dakar le quart des champions, fendant la foule sous la protection d'officiers à cheval, entraîneurs et joueurs assis sur le toit, trophée à la main. Au Nigeria, Augustine Iguavone reste en poste. La Fédération de football annonce que l'entraîneur par intérim va toujours être en charge des Super Eagles pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 contre le Ghana le mois prochain. Elle ajoute que l'ancien entraîneur des moins de 20 ans, Emmanuel Amunike, a été recruté comme assistant d'Iguavone. Ancien international et ailier barcelonais, Amunike a mené la Tanzanie à la qualification pour la CAN 2019 en Égypte. Cette annonce met fin au plan d'embauche de l'entraîneur portugais José Pesero pour diriger l'équipe du Nigeria après la CAN 2021, pendant laquelle le Nigeria a été éliminé en 8e de finale par l'Égypte. Basketball porté par Devin Booker, 38 points, Phoenix leader incontesté à l'Ouest, a donné la leçon à Chicago dans le choc de la nuit dernière, 127-124. Avec cette 13e victoire en 14 matchs, les Suns conservent leur avance sur les Warriors, qui ont poursuivi leur série vertueuse chez le Thunder, 110-98. À Utah, Donovan Mitchell, 32 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions, a été prépondérant dans la victoire du Jazz contre New York, 113-104. De son côté, Miami a remporté un 3e succès d'affilée à Washington, 121-100, pour asseoir son leadership à l'Est. Enfin, Toronto a porté sa série de victoires à 6 à Charlotte, battu à domicile 116-101. Le Camerounais Pascal Siakam a marqué 24 points, récupéré 11 rebonds et fait 8 passes décisives. Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, annonce que les pilotes ne disposeraient plus avant le départ des Grands Prix d'un moment dédié pour poser un genou au sol. Il souligne qu'il faut désormais passer du geste à l'action pour lutter contre le racisme. Ces 2 dernières saisons, le Britannique Lewis Hamilton et d'autres pilotes, à la suite d'autres sportifs, ont pris l'habitude de s'agenouiller sur la piste avant le départ de chaque course pour afficher leur solidarité avec le combat contre le racisme. La Formule 1 a indiqué qu'elle prolonge jusqu'en 2025 son engagement financier en faveur d'un programme de bourse d'ingénierie à destination des groupes sociaux sous-représentés.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, les opérateurs des sociétés multinationales et des autorités de transition ont signé un accord pour permettre l'accès à l'Internet à moindre coût. La réduction est entrée en vigueur au début de ce mois, mais les internautes et les organisations de la société civile qui luttent pour la réduction des tarifs de connexion Internet ont des avis partagés. Le point à N'Djamena avec André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique.
Le Tchad, selon les économistes, est le seul pays de la sous-région où le coût de la connexion Internet est le plus élevé. Les autorités de transition ont demandé aux opérateurs multinationaux, à l'issue des assises du deuxième forum de la jeunesse tenu à N'Djamena en fin d'année 2021, de réduire à 30% le coût d'accès à l'Internet. Maintenant, c'est chose faite. Djibril Toubé est le directeur général de RTL Tchad.
Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer aux Tchadiens que les tarifs Internet ont subi une baisse qui vont au-delà des 30% qui avait été annoncé, puisque cette baisse va jusqu'au-delà de 70-78%, voire même de 100%.
Les abonnés et agents commerciaux des deux opérateurs de téléphonie mobile apprécient diversement la réduction des tarifs et la qualité des réseaux.
Le frein, c'est bon, mais la vitesse des MB est trop rapide. C'est bien mentionné, il faut faire 24 heures, mais sans attendre les 24 heures, ça finit.
En tout cas, ce n'est que le début, donc avec le temps, il y aura des améliorations.
Ils ont dit que c'est, ils ont changé leur système, mais moi, je n'étais pas au courant. Et encore, le problème des réseaux, même, ça joue beaucoup. Des fois, j'envoie le MB, on n'a pas reçu le message presque 10 à 40 minutes d'avoir reçu le message. Et des fois, le client est parti avec nous l'argent.
Le rabais qui a été fait est quand même abordable. On n'a pas les mêmes capacités financières, donc s'ils peuvent encore diminuer davantage, surtout les appels, les messages, les Facebook, tout ça, les MB. Oui, le rabais, ça se réalise. Moi-même, j'ai fait déjà plus de deux fois ça aujourd'hui, mais on veut encore qu'il rabaisse davantage.
Réaction des organisations de la société civile qui mènent des actions depuis plusieurs années pour exiger la réduction du coût de la connexion Internet.
Nous sommes satisfaits, mais à 40%, je crois que la pression de la rue paye.
Ahmad Boulama Hacheman du collectif Ça doit changer. Pour lui, la lutte n'est pas finie.
Nous avons mis une équipe sur pied pour évaluer jusqu'à la fin de ce mois. Et à travers cela, là, il y a beaucoup de paisibles citoyens qui se plaignent de la mauvaise qualité du réseau. Et nous avons demandé à ce que le 1 giga, la validité doit être de un mois, pas d'une journée.
Pour le président du collectif tchadien contre la vie chère, Ningam Nayel Nili Versinis, toutes les revendications ne sont pas prises en compte par les opérateurs de téléphonie mobile.
Nous avons exigé que désormais les consommateurs veulent acheter 3000 francs pour 3000 minutes, 300 francs pour SMS illimité. Nous voulons la meilleure qualité du réseau. Qu'on arrête de nous facturer les appels en attente, de nous envoyer les sonneries sans nos avis et soutirer 100 francs. Qu'on cesse également de nous envoyer des SMS indésirés. On va décider avec les associations sœurs qui nous ont accompagnés dans cette lutte revendicative. Et le jour à venir, nous allons répondre à la hauteur de la provocation de ces deux multinationales.
La réduction majeure va du forfait journalier au forfait mensuel. Désormais, les internautes déboursent 1000 francs CFA pour avoir 2 gigas par jour, 3500 francs CFA pour 8 gigas par semaine et 31 500 francs CFA pour 75 gigas par mois. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les États-Unis et l'Allemagne agissent au concert face à la crise autour de l'Ukraine, selon le président américain. Joe Biden a reçu hier pour la première fois à la Maison-Blanche le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. Davantage avec Anita Powell de la VOA. Récit signé Jacques Aristide.
Le premier tête-à-tête entre le président Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz intervient alors que le président russe a déployé plus de 100 000 militaires le long de la frontière ukrainienne. D'après Vladimir Poutine, le vœu de l'Ukraine d'intégrer l'OTAN est synonyme de menace pour la Russie. Il réclame que Washington, membre le plus puissant de l'OTAN, interdise que Kiev rejoigne les rangs de cette organisation politico-militaire. Pour les Américains, c'est un choix qui appartient à l'Ukraine.
Le locataire de la Maison-Blanche indique que les États-Unis et l'Allemagne sont totalement d'accord pour imposer de lourdes sanctions si la Russie envahit l'Ukraine. Joe Biden affirme toutefois qu'une solution diplomatique est toujours possible. L'action militaire, ajoute-t-il, n'est pas la première option pour les partenaires de l'OTAN.
Le chancelier et moi avons discuté de notre étroite coopération, élaboré un ensemble de sanctions qui vont clairement démontrer la détermination internationale en imposant des mesures rapides et sévères si la Russie viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je tiens à remercier l'Allemagne et tous nos partenaires en Europe de l'Est, dans l'Union européenne, pour leur travail dans cet effort uni. Nous sommes d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas agir comme si de rien n'était si la Russie continuait d'envahir.
Avis partagé par le chancelier allemand, mais Olaf Scholz s'est abstenu de commenter le projet de gazoduc Nord Stream 2 qui vise à livré à l'Europe environ 55 milliards de mètres cubes de gaz à partir de la Russie.
Nous disons à nos amis américains, nous serons unis, nous agirons ensemble et nous prendrons toutes les mesures nécessaires.
Le président Biden, cependant, déclare que le projet serait bloqué en cas d'invasion russe de l'Ukraine.
Si la Russie envahit, c'est-à-dire si des chars ou des troupes traversent la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous y mettrons fin.
L'ancienne chancelière Angela Merkel était ouvertement en désaccord avec le président Biden sur le sort de ce gazoduc. Jeffrey Rafke, président de l'Institut américain d'études allemandes contemporaines de l'université Johns Hopkins via Zoom.
Les différences se sont aplanies. Le gouvernement allemand et le chancelier Scholz lui-même ont reconnu qu'en cas d'agression russe contre l'Ukraine, le gazoduc Nord Stream 2 serait une option.
Pour sa part, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a rencontré aujourd'hui son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Kiev, après son entretien hier avec Vladimir Poutine à Moscou. À l'issue de ces réunions, le président Macron croit possible de faire avancer les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le chassé-croisé diplomatique se poursuit pour tenter de résoudre la crise autour de l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a certes reçu son homologue français au Kremlin, mais Moscou dit ne pas avoir pris d'engagement pour une pause militaire. Jean-Roger Bion a joint à Paris Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégiques.
Je veux simplement dire que Poutine continue à mettre les Occidentaux sous pression. Il essaie d'obtenir un certain nombre de jouets, et la chose principale étant la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, j'ai envie de dire d'une certaine manière, je ne vais pas dire que c'est compréhensible, mais c'est de la technique de négociation. Mais pour le moment, ça reste de la technique de négociation, et ce qu'on pense notamment du côté français, c'est quand même qu'il est peu probable que Poutine se lance dans une guerre en Ukraine, parce que de toute façon, quand il arrive, il serait perdant dans cette affaire. En fait, tout le monde serait perdant en cas de guerre en Ukraine. Et donc, on est dans la technique de négociation, et dans une technique de négociation, là, j'ai envie de dire, tout dépend après certainement d'une politique de petits pas qui verra petit à petit une désescalade, y compris certainement une désescalade militaire. Après, la question c'est de savoir qui fait le premier petit pas qui permet d'enclencher l'autre, etc., etc., comme dans toute négociation. D'ailleurs.
Alors la crise ukrainienne peut-elle être considérée comme un test pour l'Occident sur les questions de souveraineté militaire?
Déjà, il y a la question diplomatique. Et ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est que c'est vrai que le premier engagement fut un engagement direct de la Russie par rapport aux États-Unis. Parce que c'est eux qui ont été sollicités au tout début, avec notamment les deux projets de traité, un concernant l'OTAN et un autre concernant les États-Unis. Et qu'on voit que les Européens, quand même, se réengagent dans la négociation. Alors, il y a déjà eu une réunion au niveau des experts transfert du format Normandie, hein, c'est-à-dire Ukraine, Russie, Allemagne, Allemagne-France. On attend certainement peut-être une réunion à plus haut niveau du format Normandie. Ça explique d'ailleurs le fait que le président français verra le chancelier allemand immédiatement après sa visite en Ukraine. Et donc, on a un réengagement, on va dire, européen sur la question, sur le plan diplomatique et pliées des questions militaires. J'ai envie de dire que comme si on est sur la question de la sécurité collective, c'est-à-dire la sécurité européenne, bah, il est clair qu'on est dans le cadre de l'OTAN et qu'on est dans le cadre d'un partenariat et d'une alliance avec les États-Unis.
Le couple Russie-Chine n'a jamais été aussi proche en marge de la crise ukrainienne. Peut-on dire que ce couple va faire basculer la géostratégie dans la crise ukrainienne?
Je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la crise ukrainienne qui peut faire basculer la géostratégie sur un rapprochement encore plus fort de la Russie et de la Chine. Et ça, il est certain que c'est quelque chose qu'il faut absolument que les Occidentaux évitent. Donc on a quand même intérêt à régler cette crise ukrainienne, ne serait-ce que parce que ce ne serait pas une très bonne chose quand même qu'on ait un rapprochement plus important de la Russie et de la Chine.
Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS. Enfin, il n'y a pas de santé sans santé mentale selon l'OMS. Ainsi, la Blue Mind Foundation cherche à combattre la stigmatisation des troubles mentaux et rendre les soins plus accessibles. Son programme Heal by Hair, entendez soigner par les cheveux, veut faire des formations courtes et innovantes de 3 jours pour que des coiffeuses deviennent ambassadrices de la santé mentale. Arzuma Compaoré s'est entretenue avec Marie-Alix de Putter, présidente de la Blue Mind Foundation, bien décidée à apporter de l'aide aux femmes africaines souffrant de dépression.
La volonté de s'engager pour déstigmatiser la santé mentale et de rendre accessible le soin pour toutes et pour tous en Afrique est née dans mon cœur il y a 9 ans, au moment de l'assassinat de mon époux Eric de Putter au Cameroun, alors que j'étais enceinte de 4 mois. Cet événement dramatique a fait entrer la psychiatrie par effraction dans ma vie et j'en ai une connaissance intime. Donc je suis moi-même passée par des épisodes de dépression assez sévères. L'anxiété, je connais. Les troubles post-traumatiques, je connais aussi. En Afrique, là, on a 66 millions de femmes qui souffrent de troubles de la santé mentale, qui sont âgées d'ailleurs de moins de 25 ans pour la plupart, selon les chiffres de l'OMS, et qui souffrent donc d'anxiété et de dépression. Et 85% d'entre elles n'ont pas accès à un traitement. Aujourd'hui, il y a une réalité à la fois sociale et culturelle qui fait que une femme, peu importe son statut social, peu importe son âge, va chez la coiffeuse. Donc, et chez la coiffeuse, on parle, on se confie. Donc, j'ai commencé à écrire et à définir ce qui est devenu aujourd'hui la Blue Mind Foundation il y a 3 ans, donc un peu avant le Covid. Donc, l'idée, en fait, du programme Heal by Hair, finalement, c'est le premier mouvement d'ailleurs de coiffeuses secouristes en santé mentale en Afrique, et c'est un programme donc court et innovant, basé sur des recherches de pointe qui ont déjà été mises en œuvre dans le domaine des premiers secours et déployées dans plusieurs pays aujourd'hui. Il se trouve que les résultats de notre étude montrent que 63% de femmes avouent se confier à des coiffeuses. Près de 80% d'entre elles disent qu'elles ont entendu les autres se confier aux coiffeuses. 6 femmes sur 10 aujourd'hui accorderaient davantage leur confiance à une coiffeuse qui est formée aux soins de la santé mentale. Et on a 91% de coiffeuses qui sont prêtes à être formées au premier secours en santé mentale. La formation Heal by Hair permettra donc aux coiffeuses de devenir le premier maillon de la chaîne de soins, et je précise, pas des professionnels de santé. Donc, en sachant que les femmes réinvestissent près de 90% de leurs revenus dans leur famille et dans leur communauté, contre 40% au maximum pour les hommes, il faut le dire, le résultat est donc gagnant à la fois pour les clientes, qui vont avoir un meilleur accompagnement, pour les coiffeuses secouristes et également pour les communautés.
Marie-Alix de Putter, présidente de la Blue Mind Foundation. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Odonane-Akahima, Michel Joseph et Josèle Morissin. Eric Maniakis a été à la présentation et Sylvain Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.
VOA Afrique, les infos, à Washington.